Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi. Une émission préparée ce matin par Samuel Bernard, mais aussi Mélanie Chalandon, Marguerite Caton, Maëlys André, réalisée par Vincent Abouchard et mise en onde ce matin par Jean Frédérics. Nouvelle série donc consacrée à la Grande-Bretagne. Demain, nous reviendrons sur les atouts et les faiblesses de l'économie britannique qui s'apprête à quitter le marché commun. Mercredi, nous nous demanderons comment le pays va parvenir à surmonter ses fractures sociales et territoriales. Jeudi, enfin, nous nous pencherons au chevet de la diplomatie britannique. Mais aujourd'hui, alors que les conservateurs comme les travaillistes se divisent sur le vote sur le projet d'accord pour le Brexit de Theresa May prévu le 11 décembre prochain, les partis à l'épreuve du Brexit, c'est notre sujet ce matin dans Culture Monde.
Le choix est donc clair. Nous pouvons choisir de quitter l'Europe sans accord, risquer qu'il n'y ait pas de Brexit du tout. Ou nous pouvons choisir de nous unir et de soutenir le meilleur accord qui pourrait être négocié, cet accord. Un accord qui maintienne les engagements mutuels au plus haut niveau, protège les emplois et l'intégrité de tout notre Royaume-Uni, et qui garantisse aux citoyens le Brexit pour lequel ils ont voté. Pour les Britanniques, j'ai décidé de faire ce qui est dans notre intérêt national, et j'enjoins la Chambre des communes à faire de même.
Ma très honorable amie a dit qu'elle préserverait l'intégrité du Royaume-Uni. Tout un protocole dit le contraire. Ma très honorable amie a dit que nous serions hors de la juridiction de la Cour de justice européenne. L'article 174 dit le contraire. Comme ce que dit ma très honorable amie ne correspond plus à ses actes, ne devrais-je pas écrire à mon très honorable ami le député de la circonscription d'Altrincham and Solwest, le député Graham Brady?
Cet accord est le meilleur accord possible, avait dit Theresa May en présentant ce texte trouvé avec les Européens. On entendait à l'instant Theresa May, mais aussi un député conservateur, Jacob Rees-Mogg, ironisant sur cet accord, menaçant même d'écrire au président du comité 1922 chargé de centraliser les lettres de députés et appelant à un vote de défiance. Après avoir présenté son projet d'accord pour une sortie du Royaume-Uni de l'Union Européenne, plusieurs ministres et secrétaires d'État ont annoncé leur démission du gouvernement, dont le ministre du Brexit, Dominic Raab. Des départs qui ont illustré une fois encore l'extrême division du camp conservateur. Pourtant, si la Première ministre veut obtenir l'aval du Parlement qui votera le 11 décembre prochain sur ce texte, elle va devoir rassembler. Et d'ailleurs, elle mène une véritable campagne pour emporter cette bataille. Mais y parviendra-t-elle ? Peut-elle convaincre une majorité de parlementaires ? Du côté des travaillistes, les tensions sont fortes également. Et le Brexit fait également bouger les lignes, d'autant que la société civile met la pression. Alors Theresa May gagnera-t-elle son pari ? Parviendra-t-elle à faire passer ce texte qu'elle a négocié pied à pied pendant des mois? Comment le Brexit chamboule le paysage politique britannique? Et comment pourrait-il se recomposer une fois le divorce acté? Autant de questions que nous allons évoquer ce matin avec deux invités. D'abord, ici avec nous à Paris, Emmanuel Avril. Bonjour.
Bonjour.
Merci infiniment d'être avec nous ce matin. Vous êtes professeur à Paris 3 Sorbonne Nouvelle, une spécialiste de la vie politique britannique et en particulier du Parti travailliste. Vous aviez co-dirigé avec Pauline Schnapper le Royaume-Uni au 21e siècle, paru chez Ofris. En direct avec nous également en duplex, Nicolas Startine, bonjour.
Bonjour.
Merci infiniment d'être avec nous ce matin. Vous êtes directeur, vous, du département de sciences politiques à l'université de BAF. Alors, on va commencer avec Paris d'abord, ici avec vous, Emmanuel Avril. Évidemment, disons tout de suite les choses, ce vote du 11 décembre prochain, il se présente plutôt, disons, très mal. Les discussions à la Chambre des communes vont débuter demain pour 5 jours. Il y a des dizaines de députés conservateurs qui sont favorables à un Brexit et s'opposent à cet accord trouvé par Theresa May. On les évalue à peu près à 80. Le DUP, on en parlera également, le parti nord-irlandais est opposé également parce que lui considère que les solutions retenues pour la frontière irlandaise ne sont pas satisfaisantes. Et puis, on n'en a pas parlé, mais les travaillistes voteront contre également, a priori en tout cas. Peut-être que certains feront différemment, mais on en parlera tout à l'heure. D'abord, est-ce qu'il faut comprendre qu'il n'y a aucune chance que ce texte soit voté, Emmanuel Avril, ou est-ce qu'il y a une toute petite probabilité ?
Ben, compte tenu de ce qu'on a pu observer ces derniers mois et ces dernières années, il y a toujours une toute petite possibilité qu'elles finissent en battant du temps pied à pied à convaincre un par un nombre suffisant de députés conservateurs. Mais je dois dire que vu de ce qu'on voit ce matin, c'est très très improbable. Et c'est d'autant plus improbable que sa carte maîtresse, c'est soutenez cet accord, soutenez mon accord, sinon ce que vous risquez d'avoir, c'est une sortie de l'UE sans accord du tout. Mais un certain nombre d'initiatives ont été prises, et notamment celle du travailliste Hillary Benn, qui a proposé un amendement pour que l'option de la sortie sans accord soit définitivement écartée. Donc il y a eu des discussions avec quelques conservateurs rebelles, les libéraux démocrates et les indépendantistes écossais, pour faire en sorte que cette option n'existe pas. Et si cette option n'existe pas, dans ce cas, les députés centristes, conservateurs et travaillistes qui entendent cet argument que si ce n'est pas cet accord, alors il n'y en aura pas du tout, pourraient être convaincus du coup de voter contre.
C'est sa seule carte, justement, de dire que c'est ça ou rien. C'est ça ou le chaos.
C'est-à-dire que c'est ça ou le risque d'avoir, par exemple, un deuxième référendum et éventuellement quelque chose qui reviendrait sur la première décision. C'est-à-dire, comme elle le disait dans l'extrait que vous avez diffusé, pas de Brexit du tout.
On reviendra sur cette option parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a quelque chose qui est étonnant, c'est que tout est possible. C'est l'incertitude la plus totale. Nicolas Startine, comment est-ce que vous voyez les choses? Est-ce qu'il faut se faire à l'idée que le 11 décembre prochain, il n'y aura pas de vote? Il n'y aura pas, donc, on ne va pas entériner cet accord? Ou est-ce que vous pensez qu'il y a quand même une possibilité, qu'il faut s'y préparer, que Theresa May, en réalité, a des arguments qui lui permettent aujourd'hui de faire fléchir un certain nombre de conservateurs?
Je pense que il est possible qu'elle va réussir. Hein. C'est pas probable, mais elle fait cette grande tournée du pays pour essayer de vendre l'accord qu'elle a négocié avec l'Union européenne. Et j'ai l'impression que le grand public devient petit à petit plus favorable à la possibilité d'une vote pour le deal, si vous voulez. Je crois que elle essaie de profiter du fait que elle présente que l'alternative c'est un Brexit sans accord et qu'il y aura des catastrophes économiques si on vote pour ça. Donc, je pense que c'est probable qu'elle va pas avoir le vote, mais c'est toujours possible.
Mais il y a quelque chose qui est assez étonnant, c'est qu'en réalité, cette incapacité des frondeurs, appelons-les comme ça, des frondeurs conservateurs, à faire aboutir ce fameux vote de défiance dont on a beaucoup parlé ces derniers jours, c'est que peut-être en réalité, ils n'ont pas le poids politique qu'ils veulent bien, qu'ils prétendent en réalité. Au-delà des discours, au-delà des coups d'éclat, au-delà des démissions, en réalité, leur poids politique n'est peut-être pas aussi déterminant que ce qu'ils voudraient bien dire, Nicolas Startine. C'est aussi une des choses qu'on note finalement.
Oui, c'est intéressant ça, c'est intéressant. Parce que là, on sait bien que la question d'Europe a divisé le Parti conservateur depuis très longtemps. Hein. On pense au traité de Maastricht 1992 et sa devise depuis. Mais toujours comme division dans le parti conservateur, c'était pas quelque chose de majeur politique. Mais maintenant avec cet accord et où on est maintenant avec le Brexit, ça devient très très important. Et il est tout à fait possible, comme vous avez observé, que quand même une partie de ces conservateurs souverainistes, eurosceptiques durs, ils vont peut-être changer d'avis parce qu'ils voient que l'alternative, c'est peut-être soit un référendum et peut-être après une Grande-Bretagne qui quitte pas l'Union européenne. Et pour les eurosceptiques durs, les souverainistes dans le Parti conservateur, ça serait une tragédie. Donc peut-être ils vont dire « Ok, c'est pas extraordinaire comme accord, mais à ce moment-là, c'est tout ce qu'on peut avoir si on veut vraiment sortir de l'Union européenne. Et après, on va faire les négociations sur la déclaration politique. Mais la chose la plus importante, c'est de sortir maintenant.
Emmanuel Avril, le chef de file de ces conservateurs opposés au texte à la Chambre des communes, c'est Jacob Rees-Mogg, qu'on a entendu là au début de cette émission. Qu'est-ce qu'il pèse à l'intérieur du camp conservateur et quel a été historiquement son pouvoir d'entraînement, et notamment avant le Brexit, avant qu'il n'y ait cette question-là sur la table?
Alors, disons que Jacob Rees-Mogg, c'est quand même quelqu'un qui est extrêmement, qui part vraiment des marges. C'est quelqu'un qui n'a jamais eu un poids politique particulièrement important. Il est toujours, bon, il fait pas partie du cabinet. Il n'a pas été invité au sein du cabinet. C'est vraiment quelqu'un qui est vraiment très difficile à définir. Est-ce que c'est une personne qui peut vraiment fédérer suffisamment de collègues autour de lui pour justement arriver à cette masse critique? J'en ai pas l'impression.
En tout cas, il n'a pas réussi
à obtenir 48 lettres.
Obtenir les 48 lettres nécessaires pour le vote de défiance.
Tout à fait. Donc, pour rejoindre ce que disait mon collègue Nick Startin, il y a en effet un noyau dur, si j'ose dire, de Brexiteurs qui, on peut estimer qu'ils sont une quarantaine. Il y en a jusqu'à peut-être 80 qui sont assez pro-Brexit, mais qui, comme le disait mon collègue, pourraient éventuellement entendre qu'il vaut mieux une sortie dans les termes proposés par May que prendre le risque de ne pas avoir de Brexit du tout.
Vous parlez de noyau dur. Est-ce qu'il y a un noyau dur en face? Est-ce qu'il y a des conservateurs qui sont actifs dans le soutien de cet accord? Ou est-ce qu'au fond, Theresa May est seule?
Alors, vous voulez dire, parce qu'il y a aussi des gens qui sont actifs
chez les conservateurs. Chez les conservateurs qui soutiennent cet accord. Est-ce qu'elle va faire campagne seule ou est-ce qu'elle est quand même épaulée?
Elle est épaulée, elle a bien sûr son...
Nous, on la voit comme une femme seule hein, dans ce combat politique depuis la France.
C'est-à-dire qu'elle a quand même Jeremy Hunt, son ministre des Affaires étrangères. Elle a son...
Mais dans la Chambre des représentants.
Alors, il y a quand même un groupe centriste, mais le problème, c'est que ce bloc, c'est pas un bloc homogène. C'est que on a différents degrés de soutien envers elle, et que parmi ces centristes, il y en a qui sont farouchement pro-européens et qui vont se déclarer contre son accord. Parce que ils ne veulent tout simplement pas du tout du Brexit. Donc, son problème, c'est comme vous le disiez tout à l'heure. Est-ce qu'elle peut unifier et rassembler son parti? Ça semble impossible. Il faut qu'elle arrive à convaincre suffisamment de personnes aux marges. Mais enfin, c'est quand même, elle vend pas du rêve en bouteille. C'est vraiment la moins mauvaise solution qui est sur la table. Et donc, à prendre ou à laisser.
Nicolas Startin, est-ce qu'elle est seule ou est-ce qu'elle est, elle a derrière elle quand même des députés pour l'épauler?
Elle a des députés pour l'aider, mais ce qui est intéressant, je pense, c'est que les journaux tabloïds, le Daily Express et le Daily Mail, qui avaient poussé vraiment une campagne électorale très dure pendant le référendum et après pour le Brexit, ils ont changé d'avis. Et maintenant, ils sont pour le deal. Et ça, c'est intéressant parce qu'on sait bien que les journaux tabloïds ont quand même une influence assez grande sur certains... électeurs en Grande-Bretagne. Donc ce changement, cette nuance, et maintenant ils soutiennent l'accord, je pense que ça pourrait changer les idées des certains députés qui voient que, comme on dit en anglais, the sands are shifting, si vous me suivez, hein, depuis une semaine ou deux semaines. Donc il est toujours possible qu'elle voie le vote. Hein.
Ça fait des mois, Nicolas Startin, qu'on annonce la chute de Theresa May. Là encore, finalement, il y a eu cet accord trouvé avec les Européens. On a essayé, elle a réussi à échapper à ce projet de vote de défiance, malgré les efforts de ses frondeurs. Comment comprendre cette incroyable résistance de Theresa May? Est-ce que c'est lié au fait qu'en réalité, tout le monde a parfaitement conscience qu'il n'y a pas d'alternative? Ou est-ce qu'il y a quelque chose de particulier dans sa personnalité, dans sa manière de faire de la politique? Comment vous voyez les choses, vous, Nicolas Startin?
Je pense qu'elle est quelqu'une qui est très persistante quand elle commence à faire quelque chose. Elle veut le finir, c'est sa mentalité. Mais En fait, la chose qui est la plus importante, je pense, pour expliquer qu'elle reste toujours comme Premier ministre, même qu'elle risque la possibilité d'une défaite de 100 voix dans le Parlement, c'est qu'il n'y a pas d'alternatif. Mmh. J'ai l'impression que le moment pour Boris Johnson s'est passé maintenant. Hein. Il était ministre des Affaires étrangères, ça n'a pas trop marché, il n'a pas trop regroupé le camp souverainiste dans le Parti conservateur, Jacob Rees-Mogg, je ne pense pas qu'il est candidat sérieux pour remplacer Theresa May. Bon, peut-être il y a quelqu'un plus jeune, ils vont, comme on dit en anglais, skip the generation, mais on ne voit pas quelqu'un qui veut vraiment remplacer Theresa May actuellement. Mm-hmm. Parce que là, si quelqu'un remplace, qu'est-ce qu'ils vont faire, hein? Parce que ça va être très, très difficile. Repartir à Bruxelles pour essayer de renégocier l'accord, essayer de regrouper un parti conservateur qui est divisé sur l'Europe depuis une trentaine d'années et en même temps essayer de dévidre la montée électorale potentielle de l'opposition. Ça va être difficile. Ça serait un emploi très, très compliqué pour quelqu'un qui remplace. Il n'y a pas quelqu'un qui a les qualités de leadership, les qualités de statesman ou stateswoman pour remplacer Theresa May actuellement. Et c'est pour ça que je pense qu'elle va rester. Elle est, même si le vote ça se passe mal, il est toujours possible qu'elle va rester. Hein.
Emmanuel Avril, dans l'hypothèse, parce qu'il faut faire des hypothèses dans ce genre de situation, faisons l'hypothèse que l'accord ne passe pas à la Chambre des communes. Qu'est-ce qui se passe? On repart pour des négociations? On se dirige inexorablement vers un Brexit sans accord? Qu'est-ce qui se passe?
Alors, je vais essayer de me lancer. C'est un petit peu dangereux. Bon, alors, une première conséquence immédiate, ça pourrait être la chute du gouvernement. Donc, ou bien parce que...
Mais... Elle a dit, Theresa May, que si l'accord n'était pas entré...
Non, elle l'a pas dit. On ne dit pas ce genre de choses. Enfin, on n'annonce pas...
Devin Cameron avait bien dit que si le référendum était défavorable, il partirait.
Oui, oui, d'accord. Mais il y a une possibilité qu'elle jette l'éponge et qu'elle dise, ça suffit, j'ai fait tout ce que je pouvais. Vu ce qu'on vient de dire, c'est peu probable, mais... C'est toujours possible, hein, tout le monde a ses limites. Ce qui est en revanche possible, c'est que le gouvernement tombe parce qu'il y a un vote de défiance. Et dans ce cas-là, éventuellement, des élections. Donc ça, c'est une première possibilité, une chute du gouvernement.
Et qui pour la remplacer? Qui pour aller au feu?
Les
prétendants.
On ne sait pas, c'est pas sûr du tout. Enfin, vraiment, je suis tout à fait d'accord avec mon collègue pour dire qu'il y a personne qui se dégage. L'avantage de Theresa May, enfin sa force, c'est d'être un peu ambivalente, puisque c'est quelqu'un qui avait voté pour le maintien au sein de l'UE et qui néanmoins essaye de négocier du mieux qu'elle peut un Brexit. Donc, il faut trouver quelqu'un avec ce type de profil qui peut donc unifier le parti. Il y en a pas beaucoup. Un deuxième scénario, c'est qu'elle elle se donne un peu de temps. Je crois qu'elle aurait 3 semaines pour éventuellement représenter un nouvel accord un peu renégocié aux marges. Puisque les dirigeants européens ont dit
que c'était inenvisageable.
Voilà, mais si c'est des petits ajustements et qu'elles reviennent 3 semaines plus tard avec un accord, avec deux, trois petites modifications, elles pourraient essayer de retenter sa chance. C'est possible. Il est tout à fait possible, enfin c'est ce qui est en train de monter, qu'une campagne pour l'organisation d'un deuxième référendum s'organise. Et même d'aucuns, mais là je suis pas sûre que ça soit très, très réaliste, mais on ne sait pas, d'aucuns pensent que c'est peut-être son plan B. C'est-à-dire d'elle-même dire, puisqu'on est coincé, s'il n'y a vraiment aucune autre solution, proposons un référendum qui pourrait éventuellement inclure son accord tel qu'elle l'a négocié, parce qu'elle a déjà fait un peu des appels du pied à la population. Hein, donc elle a déjà commencé à essayer de s'attirer un soutien de la part des électeurs qui pourrait éventuellement l'aider à court-circuiter le Parlement.
Et il y a même des voix qui s'élèvent pour dire qu'il faut que ce texte soit soumis à un vote populaire. C'était le sens, par exemple, de la tribune de Sadiq Khan dans Le Monde il y a quelques jours, Nicolas Startine.
Oui,
c'est ça. Et je pense que...
C'est possible, ça, juridiquement ? Pardon, c'est possible, juridiquement ?
Le référendum ?
Oui.
Il faut, oui, si c'est approuvé par le Parlement d'abord. Hein, et il faut que ce soit approuvé par le Parlement. Mais ce qui était intéressant, c'était que quand même d'avoir 700 000 personnes qui manifestaient dans la rue pour un People's Vote il y a 2 mois, c'était quand même assez important pour nous. Parce que nous, en Angleterre, en Grande-Bretagne, on ne fait pas très bien les manifestations comme en France. Hein, on n'a pas cette tradition révolutionnaire. On a eu un changement à la démocratie qui était douce, qui était lent en fait. Donc pour avoir 700 000 personnes dans la rue, quand même, c'était assez quelque chose qui était assez important pour essayer d'influencer le débat. Est-ce qu'il y aura un référendum ? Si vous avez posé la question il y a un mois, moi j'aurais dit non, il n'y a pas de possibilité pour un référendum parce que bon, ça va diviser les gens, tout ça. Mais j'ai l'impression que même le gouvernement, il pense que peut-être c'est une option parce que même ils n'ont pas déclaré ça, peut-être le plan B, c'est que bon, j'ai essayé de faire ceci dans le Parlement. J'ai eu un accord avec l'Union européenne. C'était un accord de soft Brexit, un Brexit doux. Les parlementaires, ils ont rejeté. Et bon, maintenant, j'ai essayé de renégocier avec Bruxelles, mais ça n'a pas marché, peut-être. Je vous donne la possibilité d'un deuxième référendum pour fermer le débat. Je n'ai pas confiance dans les parlementaires. C'est à vous à choisir. Et donc, si on fait ça, ça va être très très intéressant parce qu'on ne sait pas si on va avoir sur le papier quelle option rester pour le deal, contre le deal. Est-ce qu'on va avoir une vote transférable où on va mettre premier, deuxième, troisième pour les options qui sont décidées? Ça va être très compliqué. Et ça pourrait diviser aussi le pays, je pense.
Vous parliez de ce mouvement People's Vote, c'était il y a quelques semaines, écoutez.
Les jeunes sont ceux qui vont perdre le plus, car le Brexit tente de nous ramener dans les années 30. Ça veut dire que nous serons moins prospères et que le racisme de cette époque va se répandre.
Aujourd'hui, il y a 2 options sur la table. Un mauvais accord, ou pire, pas d'accord du tout. C'est à des millions de kilomètres de ce qui a été promis il y a 2 ans. Et c'est pourquoi les Britanniques devraient être autorisés à donner leur avis sur l'issue des négociations.
Personnes dans les rues de Londres. Est-ce que, Emmanuel Avril, cette pression populaire peut changer la donne ? Et s'il y avait effectivement une nouvelle consultation, est-ce qu'on a une toute petite idée de ce que ça pourrait donner ? Que disent les sondages aujourd'hui ?
Alors,
il y en a.
Oui, il y a beaucoup de sondages, mais alors, donc, les sondages au fil des mois indiquent qu'il y a en effet un léger reflux. Mais ce reflux, il est tout de même pas suffisamment significatif pour qu'on soit sûr que si on reposait la question dans les mêmes termes aujourd'hui, on ait un résultat différent ou qu'on ait un résultat suffisamment marqué, un écart suffisamment marqué entre les deux positions, parce que si c'est pour avoir 52-48 dans l'autre sens, ça résoudra rien du tout. Donc, mais je pense que c'est un petit peu ce sentiment. Alors, il y a 2 choses. Il y a des inquiétudes quand même de plus en plus marquées et peut-être une érosion de la fermeté des électeurs qui avaient voté Leave en 2016, qui se préoccupe en particulier du côté des électeurs travaillistes, qui s'inquiète peut-être de plus en plus de ce que serait la politique économique et sociale d'un gouvernement conservateur une fois que la Grande-Bretagne serait sortie de l'Union européenne. On peut aussi... il faut aussi prendre en compte le fait que tout dépend des options qui vont être présentées dans le cadre d'un nouveau référendum. Et le fait qu'il y ait ce léger reflux, ça peut expliquer que le Parti travailliste, mais alors vraiment à pas compter, hein, très très lentement, est en train d'évoluer de plus en plus vers une position qui semble ouvrir la possibilité
d'un référendum.
Alors justement, allons du côté travailliste, parce que jusqu'ici les choses sont un peu trop simples. Alors on va complexifier un petit peu les choses. Le leader du parti travailliste, Jeremy Corbyn, on l'interrogeait sur l'hypothèse d'une nouvelle consultation populaire. C'était sur Sky News, écoutez.
C'est une option pour l'avenir, mais ce n'est pas une option pour aujourd'hui, car si le référendum a lieu, sur quoi va-t-il porter? Quelle sera la question posée? Je pense qu'une autre chose maintenant serait d'ignorer la réalité de la situation. Le gouvernement a eu tout le temps pour trouver cet accord et il n'y est pourtant pas arrivé. J'ai voté lors du premier référendum pour rester dans l'Union européenne. J'ai fait campagne pour rester et réformer. J'ai dû débattre dans ce même bâtiment pour discuter exactement de cette question. Je pense que des réformes sont nécessaires pour réformer l'Union européenne. Je pense qu'à l'avenir, nous pourrions avoir de bonnes relations avec l'Union européenne, ce qui nous permettrait d'avoir une union douanière permanente, ce qui nous permettrait d'avoir un bon accord commercial et, surtout, nous garantirait une pleine coopération en matière d'environnement.
L'hypothèse d'un nouveau référendum, une possibilité pour l'avenir, mais pas une option pour aujourd'hui. Voilà ce que disait Jeremy Corbyn dans une récente interview à Sky News. Nicolas Tartine, on a du mal un peu à comprendre le positionnement de Jeremy Corbyn. On comprend pas très bien finalement pourquoi il n'ose pas assumer pleinement l'idée d'un nouveau référendum. L'idée aussi peut-être que le Brexit n'est pas une bonne chose et que les Britanniques devraient revoter pour éviter ce divorce. Aidez-nous à comprendre ce positionnement un tout petit peu ambigu de Jeremy Corbyn.
Oui, je vais essayer. C'est pas évident d'expliquer.
Bon, mais bon,
historiquement, Jeremy Corbyn, il fait partie de cette faction dans le Parti travailliste qui était eurosceptique, qui venait du gauche du parti, qui disait que l'Union européenne était un club de capitalistes qui est néolibéral, qui fait rien pour protéger les droits et etc., etc. Il n'était pas très enthousiaste envers le vote pour rester dans l'Union européenne pendant la campagne de référendum. Il avait dit qu'il était 6 sur 10 pour l'Europe ou peut-être c'était 7 sur 10, je me souviens plus, mais c'était pas quelque chose de très très positif. Mais le problème pour Corbyn, quand j'observe la situation maintenant, c'est que lui, c'est le leader du parti politique le plus grand en Europe vis-à-vis le nombre des adhérents. Et trois quarts de ses adhérents sont pour l'Union européenne.
Et pour un nouveau référendum.
Et pour un nouveau référendum, il y a une majorité des adhérents dans ce parti. Et surtout les jeunes. Et son mouvement, c'était bien un mouvement qui avait très galvanisé les jeunes personnes en Grande-Bretagne, et il risque à perdre ses supporters s'il ne change pas d'avis. Donc petit à petit, je pense qu'il change. À moi, on peut dire sur Corbyn qu'il écoute son parti normalement, il est prêt de changer son avis s'il y a une grande majorité qui sont contre, comme avec Trident, il avait changé son avis. Mais c'est difficile pour le Parti travailliste. Le parti veut avoir une élection générale, mais s'il y a une élection générale, moi, je ne suis pas certain que Corbyn va gagner cette élection. Ça ne serait pas évident. Le référendum pourrait être une option pour lui, et il me semble que petit à petit, comme un escargot, il va jusqu'à cette position d'avoir un référendum. On verra, mais je ne sais pas si l'opposition a vraiment joué le rôle d'opposition dans la situation post-référendum.
Est-ce que Emmanuel Avril, il pourra aller, Corbyn, jusqu'à un référendum? Parce qu'il faut rappeler que si la base travailliste est favorable à un nouveau vote, il ne faut pas non plus oublier qu'une bonne partie des électeurs du Labour a voté pour le Brexit. C'est à peu près 37%. Donc évidemment, c'est très important pour Corbyn de pas se mettre à dos tout ce monde-là. Et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle, lui, il a longtemps misé sur des élections anticipées sans défendre l'option d'un référendum. Mais est-ce qu'il pourrait, justement, du coup, aller jusqu'à défendre l'idée d'un référendum?
Alors, donc, Jeremy Corbyn, c'est quand même quelqu'un qui a une très longue expérience de la politique. Donc, c'est un fin stratège, quoi qu'on en dise. Il a des convictions qu'on connaît bien. Mais cela dit, il est le leader d'un parti qui a aussi, qui pèse sur le, ce qui va décider de soutenir in fine.
Pardon, mais les convictions qu'on connaît bien, on sait qu'il est, disons, plutôt à gauche, en tout cas beaucoup plus à gauche que ce qu'était le Parti travailliste à l'époque de Tony Blair, par exemple. Mais sur l'Europe, par exemple,
les
positions de Corbyn, c'est quoi?
Alors, vous me posez une colle, parce que personne n'est vraiment...
Il y a que ça des colles sur ce sujet.
Il y a des convictions personnelles qui sont une méfiance vis-à-vis de la politique néolibérale de l'Europe et évidemment l'impact que ça a sur les travailleurs britanniques. Mais d'un autre côté, il adhère tout à fait à la libre circulation. C'est un eurosceptique à l'ancienne, mais qui, je ne pense pas, est véritablement favorable à un Brexit et certainement pas, qui souhaite certainement pas une sortie brutale de l'UE. Cela dit, il y a aussi l'idée que si les travaillistes avaient une chance de remporter les élections, ils auraient peut-être les coudées franches si la Grande-Bretagne était sortie de l'UE. Il y a un petit peu aussi peut-être ce rêve de pouvoir conduire une politique en toute liberté à l'extérieur de l'UE. Mais d'un autre côté, quand on voit les prédictions en termes d'impact sur l'économie d'un Brexit brutal, il faudrait gérer la pénurie, ce serait quand même très difficile de dépenser... De financer les mesures sociales qui sont promises.
Oui, mais en même temps, politiquement, c'est presque plus intéressant, en tout cas pour Corbyn, de récupérer un pays en mauvais état, économiquement et socialement, parce que, précisément, ça lui donne une plus grande chance d'être éventuellement élu.
Oui. Pouvoir se présenter comme celui qui gère le chaos qui a été créé par quelqu'un d'autre. Donc, il fait très attention, en fait, de ne pas se mouiller, mais il faut voir quand même qu'au sein de l'équipe dirigeante, différentes personnes disent différentes choses. Donc, j'ai un peu l'impression qu'il y a une distribution des rôles, que lui est celui qui en dit le moins, qui se mouille le moins, parce qu'évidemment, il faut se mettre à dos ni les pro-européens dans le parti qui sont très nombreux, ni, comme vous le disiez, les électeurs travaillistes qui ont voté pour le Brexit, quoique je disais tout à l'heure que ces électeurs-là... commence à donner des signes d'être de moins en moins enthousiaste à l'idée de quitter l'Union européenne et que leur priorité, c'est vraiment une politique sociale qui leur permette de vivre dignement.
Nicolas Tartine, est-ce que Corbyn pourrait se placer en sauveur de cette Grande-Bretagne post-Brexit? On disait, Emmanuel Avril rappelait les positions, disons, assez à gauche de Jeremy Corbyn, en tout cas beaucoup plus à gauche qu'à l'époque de Tony Blair, qui lui avait participé justement à une forme de marginalisation, de ringardisation de l'aile la plus à gauche du Labour. Aujourd'hui, on a donc Corbyn, on a un numéro 2 qui est John McDonnell, qui est le monsieur économique du Labour, qui lui aussi, qui d'ailleurs fait son grand retour, est un anti-libéral de la première heure. Mais ce positionnement, précisément, puisqu'on voit que ce Labour s'est considérablement déporté à gauche, est-ce que ce positionnement n'est pas trop radical pour espérer reprendre le pouvoir à moyen terme? Est-ce que le soutien populaire serait suffisamment important pour qu'on prenne ce chemin, Nicolas Tartine?
Ça, c'est une bonne question. Je pense que ça serait difficile pour Corbyn de se présenter comme le grand rassembleur du pays britannique, parce que son point de vue politique, c'est quand même, comme vous avez dit, assez gauchiste, et il a quand même des supporters partout dans le pays, mais je ne sais pas s'il a la possibilité de vraiment rassembler la nation comme Tony Blair avait fait à l'époque avec son discours centriste. Ça dépend un petit peu le vote. Si c'est vraiment une massacre pour Theresa May dans le Parlement la semaine prochaine, peut-être il peut se lever en disant « Ouais, j'ai ces idées, j'ai ces possibilités pour changer la Grande-Bretagne, pour avoir un système qui est beaucoup plus gauchiste, beaucoup plus démocrate. » Mais ça va être difficile, je pense. Et je pense qu'il a aussi des problèmes avec le parti aussi qui commence à dire que est-ce que Corbyn c'est le leader pour nous avancer aux prochaines élections législatives et peut-être il va avoir des problèmes dans le parti après le Brexit, ça c'est une possibilité aussi, surtout s'il soutient cette position de continuer avec son soutien pour le Brexit.
Cette question du leadership, Nicolas Startin, que vous évoquez, Emmanuel Avril, c'est vrai que ça semble être un problème pour Corbyn, et ça semble être un problème en particulier dans une hypothétique possible alliance avec le Parti national écossais. On sait que les Écossais avaient voté très largement pour le maintien. Nicola Sturgeon, chef du Parti national écossais, le SNP, a dit qu'elle était prête à envisager une alliance avec le Parti travailliste, mais elle doute justement de cette volonté et de ce leadership de Corbyn. Elle dit « Je l'ai écouté, Jeremy Corbyn n'a pas toujours fait preuve de leadership, mais si je pouvais aider le Parti travailliste à se retrouver dans une position où il serait possible de fusionner, je serais ravi d'essayer de faire ça avec lui. » Vous pensez que c'est possible une alliance entre le Labour et le SNP écossais ?
Alors, il y a autant, encore une colle, il y a autant de choses qui les rassemblent que de choses qui les divisent. Et évidemment, le sujet qui risque de fâcher le plus, c'est la question de l'indépendance, de l'éventualité d'un deuxième référendum sur l'indépendance de l'Écosse. Hein, puisque Nicola Sturgeon a dit qu'elle voulait bien s'associer aux efforts des autres anti-May pour la renverser la semaine prochaine, mais à condition que s'il y avait un deuxième référendum, cela ouvre la possibilité à l'Écosse de pouvoir, en cas de décision qui confirmerait le Brexit une fois de plus, que l'Écosse puisse se dissocier de cette décision et décider et organiser un deuxième référendum sur son indépendance.
On est avec vous, Emmanuel Lavril, avec Nicola Sturgeon également, dans une semaine consacrée au Royaume-Uni, vers un nouveau départ. On a mis un point d'interrogation à ce titre de semaine. Les parties à l'épreuve du Brexit, c'est notre sujet. Vous écoutez France Culture, vous écoutez Culture Monde.
France Culture, Culture Monde, Florian Delorme.
Il faut qu'on parle de l'Irlande maintenant. Lors de la conférence annuelle du DUP, le Parti Unioniste Démocrate, Arlene Foster, leur leader, considère que le choix ne doit pas être entre l'accord présenté par Theresa May et une absence d'accord. Écoutez.
Le choix n'est pas entre cet accord et aucun accord. Malgré ce que peut dire la machine gouvernementale, la réalité est que si nous voulons obtenir un meilleur résultat de celui qui est actuellement proposé, la seule option est de regarder au-delà de l'actuel projet d'accord de retrait et de travailler dans les meilleurs délais pour obtenir un meilleur résultat.
Voilà, Arlene Foster, donc leader du DUP, le Parti Unioniste Démocrate. On va retrouver Jonathan Towns, enseignant à l'Université de Liverpool, spécialiste de la politique nord-irlandaise et du Parti Unioniste Démocrate, auquel il a d'ailleurs consacré un livre. Hasard du calendrier, le DUP se réunissait il y a 2 semaines en congrès. Ce parti, qui était jusqu'il y a encore peu de temps l'allié de Theresa May, a vilipendé cet accord négocié par la Première Ministre. La leader du parti, Arlene Foster, a même invité Boris Johnson, c'est dire, ennemi de Theresa May au sein de ce congrès. Il s'est exprimé avec eux, il a exprimé son mécontentement. Alors qu'en est-il de cette stratégie du DUP, le Parti Unioniste Démocrate Irlandais? La coalition entre le Parti Conservateur et ce Parti Unioniste tient-elle encore? Et que signifie la venue aussi de Boris Johnson lors de ce congrès? Jonathan Tange nous répond, il est au micro de Samuel Bernard.
The DUP are no longer Theresa May's allies. The confidence and supply deal
Le DUP n'est plus l'allié de Theresa May. La mort de leur accord de coalition n'a pas été explicitement annoncée. Mais dans le contexte actuel, avec le Brexit, cet accord est mort. Le congrès du DUP auquel je me suis rendu ne pouvait pas être plus clair. Le DUP ne soutiendra pas l'accord négocié par Theresa May avec Michel Barnier et les 27 États membres. Alors pourquoi le DUP ne le soutient-il pas? Eh bien parce que cet accord crée une séparation entre l'Irlande du Nord et la Grande-Bretagne. Ce qui n'est pas acceptable pour le DUP, pour eux, un accord convenable fait sortir de l'Union européenne toutes les régions du Royaume-Uni dans les mêmes conditions. Et concernant la présence de Boris Johnson à ce congrès, la première raison tient au fait que le DUP tenait à avoir un conservateur qui les soutienne, pour montrer que certains conservateurs n'apprécient pas l'accord de Theresa May. Et puis Boris Johnson a aussi lui-même des vues sur le Parti conservateur. Et il a profité de cet événement pour s'exprimer sur le remplacement de Theresa May.
Finalement, ce qu'on est en droit de se demander aujourd'hui, c'est que veut le DUP ? Et surtout, jusqu'où est-il prêt à aller aujourd'hui ? Est-ce qu'ils sont prêts, Jonathan Tunge, selon vous, à sacrifier l'accord de paix du Good Friday de 1998 qui garantit une frontière souple et qui avait mis fin à 30 années de violence ?
Du point de vue économique, la position du DUP défendue par Alan Foster s'appuie sur des arguments assez fragiles. La plupart des hommes d'affaires et des agriculteurs soutiennent cet accord parce que pour eux, c'est la meilleure façon de gérer la frontière. La question de la frontière est très sensible. Il faut une frontière souple entre le nord et le sud. Des milliers de personnes sont mortes il n'y a pas si longtemps dans un conflit au sujet de cette frontière. Et renforcer la frontière serait un désastre. L'argument du DUP consiste donc à dire qu'il n'y aurait pas besoin de frontières dures grâce aux nouvelles technologies. Le gouvernement irlandais ne souhaite pas une frontière dure. Donc cet enjeu serait en fait instrumentalisé pour créer un seuil entre le Royaume-Uni et l'Irlande du Nord. Tout le monde n'est évidemment pas d'accord, mais le DUP est le plus grand parti en Irlande du Nord. En fait, je ne pense pas que le DUP souhaite une frontière dure. Ils veulent simplement un accord sur les mêmes termes que le reste du Royaume. Mais beaucoup disent que c'est absolument impossible. L'Irlande du Nord est très spéciale. Elle était l'objet d'un conflit et il faut accepter ce deal car il garantit une frontière douce.
Il y a eu un certain nombre de voix qui se sont levées au sein du DUP. La position d'Arlene Foster, donc leader du parti, ne fait donc peut-être pas l'unanimité sur cet accord de sortie de l'Union européenne. Quelles sont les divisions aujourd'hui au sein même du parti ?
Je pense qu'il y a des partisans du DUP qui soutiennent ce deal. Rappelez-vous que 30% des électeurs du DUP ont voté pour rester dans l'UE en 2016. Il y a une frange unioniste qui se rejoint sur les questions économiques et politiques et qui trouve que les positions du DUP sont ridicules. Pour eux, c'est le meilleur deal possible, notamment parce qu'ils trouvent une solution aux frontières, encore une fois.
Il y a aussi certaines voix issues de la base électorale du DUP qui soutiennent May.
Mais dans le parti lui-même, parmi ses membres, ils ont une ligne très dure. Il faut se souvenir que le DUP est un parti qui a toujours eu une ligne très dure. C'était un parti protestant fondamentaliste pendant des décennies. Il s'était opposé à l'accord du Vendredi Saint de 1998 qui était demandé, espéré par tout le monde comme un superbe accord. Mais le DUP, lui, s'y était opposé. Et ils n'ont jamais formellement exprimé qu'ils le soutiennent aujourd'hui. Et donc, parmi les leaders du DUP et parmi leurs membres, on trouve des gens très radicaux, plus que dans la plupart des partis en Europe occidentale. Et ils ne vont pas changer. Ils ne bluffent pas lorsqu'ils disent qu'ils s'opposent à cet accord. Et ça ne sert à rien d'essayer de vendre l'accord actuel sur l'argument qu'il protège l'accord du Good Friday, car ils ne l'ont jamais soutenu.
Lors des élections régionales de 2017, les unionistes du DUP, bien que toujours en tête, étaient en perte de vitesse face au Parti républicain du Sinn Féin. Est-ce que pour vous, le DUP pourrait, disons, pâtir de cette campagne, de ces négociations ?
Je pense que le DUP sera toujours le parti le plus important parmi les unionistes. Ils n'ont pas de véritable rival à l'intérieur de cette communauté. Mais de l'autre côté, il y a une augmentation de la population catholique qui défend très fortement le parti Sinn Féin. La part de la population protestante et unioniste en Irlande du Nord, elle, décline. Et par conséquent, le scénario d'une unification de l'Irlande est de plus en plus crédible. Il se trouve que l'accord du Good Friday autorise la possibilité d'un référendum demandant à l'Irlande du Nord si elle souhaite rejoindre l'Irlande. Je pense que pour le moment, le DUP serait toujours gagnant. Les Nord-Irlandais demanderaient à rester dans le Royaume-Uni. Mais je pense que le DUP devrait être préoccupé par autre chose. Vous voyez, si Theresa May parvient à faire passer son accord, ça pourrait être une excellente opportunité pour l'Irlande du Nord. Les entreprises auraient accès à la fois au marché européen et au marché britannique. Donc l'Irlande du Nord risque de s'enrichir et se dire « on aime bien être aussi proche de l'Irlande, on a le meilleur de ces deux mondes ». Et ils pourraient cesser de supporter les partis unionistes et soutenir l'idée d'une seule Irlande.
Alors ce parti républicain, Sinn Féin, qui défend la réunification de l'Irlande, serait tenté de voter pour cet accord, mais ses députés ne siègent pas au Parlement britannique. Et peuvent-ils faire une exception et aller voter ce texte ?
Le Sinn Féin ne fera pas d'exception. Ils ont été très clairs sur le sujet. Ils ne s'assiéront pas à Westminster. C'est une question de principe pour eux. Si on siège à Westminster, on doit signer un vœu d'allégeance à la reine. Et pour eux, ce serait totalement hypocrite. Ils ne veulent ou ne doivent aucune allégeance envers la reine puisqu'ils défendent une Irlande unie et indépendante. Alors qu'on l'accepte ou non, c'est une position de principe. Et donc même si leur vote pouvait faire la différence, ils ne le feront pas. Ils ne s'assieront jamais à Westminster. Et donc parmi les représentants de l'Irlande du Nord qui siègent à Westminster, 11 ont accepté leur siège et 10 d'entre eux sont du DUP. C'est ce qui leur a donné une telle importance à Westminster du point de vue arithmétique.
Jonathan Tange, professeur de sciences politiques à l'Université de Liverpool, au micro de Samuel Bernard. Nicolas Tartine, réaction sur ce cas irlandais. Il y a deux choses qu'on peut voir. C'est d'abord, un, que le DUP est divisé, j'allais dire un peu comme tout le monde, sur cette question du Brexit. Et que deux, le scénario de la réunification est désormais politiquement envisageable. Réunification de l'Irlande, Nicolas Tartine.
Ah oui, c'est en fait, cette question de l'Irlande du Nord, c'est la raison que les négociations avec l'Union européenne ont déroulé autant de temps, parce que c'est quelque chose qui est presque impossible à résoudre, à mon avis, hein, parce que là, il y a deux possibilités pour éviter la frontière entre l'Irlande du Nord et l'Irlande. Et le premier, c'est l'unification d'Irlande, et il me semble que ça va pas arriver pour le moment. Hein. Et la deuxième possibilité, c'est de rester dans l'Union européenne, et ça me semble compliqué aussi. Et comment résoudre cette question du backstop et qu'est-ce qui va se passer après pour les relations futures entre avec Irlande du Nord et où ils sont dans l'Union européenne, ça va être très compliqué et je ne sais pas comment ça va être résolu avec la déclaration politique, même si Theresa May réussit à avoir le vote au Parlement la semaine prochaine, la situation avec l'Irlande du Nord et la situation avec le backstop et tout cela et la frontière, ça va continuer. Ils n'ont pas vraiment résolu cette situation et je ne vois pas clairement comment ça va dérouler et comment ils vont essayer d'avoir une résolution qui va satisfaire tout le monde.
Emmanuel Avril, réaction et puis peut-être je vais nous projeter dans un temps plus lointain et donc avec une question encore plus difficile que toutes celles que je vous ai posées jusqu'ici qui étaient déjà difficiles, mais on voit bien le parti unioniste démocrate irlandais divisé, le parti travailliste divisé, le parti conservateur divisé. Qu'est-ce qui va se passer dans quelques années ? Dans 10 ans, est-ce que les structures, la structure du paysage politique va retrouver finalement un certain équilibre, c'est-à-dire avec les idéologies traditionnelles du côté conservateur, du côté libéral, etc. Ou est-ce que ce paysage politique va voler en éclats ?
Bon, ben je vais me lancer. Disons que on avait déjà l'impression depuis 2010, quand il y avait eu un gouvernement de coalition, ce qui est très inhabituel en Grande-Bretagne, qu'on s'avançait vers peut-être un système tripartite pour en place du régime du système bipartisan, qu'il y avait une fragmentation de plus en plus marquée. Et puis pourtant, en 2017, on a eu l'impression d'un retour à la normale, entre guillemets, avec les deux grands partis majoritaires.
Une bipolarisation classique.
Voilà. Donc, alors, on se projeter dans un avenir très lointain, je suis pas sûre qu'on ait besoin de...
Dans 10 ans, par exemple.
Oui, mais on n'est peut-être pas obligé d'aller aussi loin, même. Oui. C'est-à-dire que si... l'option de faire campagne pour un deuxième référendum était retenue. Là, les deux parties qui se tiennent plus ou moins, on ne sait comment, unifiées, pourraient auraient de grands risques de voler en éclats. Et particulièrement le Parti travailliste, qui là a réussi à se tenir ensemble en laissant différentes personnes dire différentes choses, en cultivant l'ambivalence, le flou artistique. Mais s'il faut ensuite que Jeremy Corbyn dise « moi je vais voter ceci », et on a en plus autour de ce mouvement pour un vote populaire, un « the people's vote », un peu une sorte d'incubateur d'un nouveau parti centriste. Hein. Il y a beaucoup de rumeurs.
Donc l'émergence d'un nouveau parti n'est même pas à exclure, c'est ça
c'est
que vous nous dites
Non. Alors, c'est très difficile compte tenu du mode de scrutin utilisé, mais il y a des discussions qui ont lieu.
Nicolas Tartine, il n'y a pas de raison, hein. Vous aussi, je vais vous poser cette question extrêmement difficile. Nous sommes en novembre 2028. À quoi ressemble le paysage politique britannique? Est-ce qu'on a encore le camp conservateur, les travaillistes, l'émergence d'un nouveau parti peut-être, Nicolas Tartine?
Ça, c'est intéressant. Ce qui est intéressant aussi, c'est que bon, nous, on a une histoire d'une politique modérée. On a avancé vers la démocratie petit à petit. Il n'y avait pas de révolution, etc., comme en France, par exemple. Mais même quand on a cette tradition de modération, on n'a pas vraiment eu un parti politique du centre qui est grand. Hein. Mais maintenant, on a les Liberal Democrats qui sont... pour l'Europe, c'est le seul parti du paysage politique en Grande-Bretagne qui est uni envers le Brexit. C'est un parti qui est pro-européen. Et après la coalition, sous le leadership de Nick Clegg, maintenant ils ont Vince Cable comme leader. Il réussit pas à être convaincant. Il réussit pas dans les sondages. Et vraiment, c'est le moment pour un parti modéré, un parti du centre, de profiter un parti pro-européen, mais ils n'arrivent pas à avoir de soutien dans les sondages.
Pourquoi? L'opinion ne suit pas.
Et bon, je pense que c'est un peu une question de leadership. Je pense que c'est un peu l'héritage de ce qui se passait avec la coalition, la situation dans les universités où ils ont soutenu les frais d'inscription à beaucoup endommagés. Je pense les Liberal Democrats en Grande-Bretagne. Il y a pas mal de gens qui parlent d'un nouveau parti du centre et peut-être David Miliband, l'ex-travailliste, le frère du ex-leader du parti travailliste, Ed Miliband, va retourner pour être le leader d'un nouveau parti du centre. Mais si vous me posez la question, franchement, je pense que ici 15 ans ou 10 ans, il y aura toujours le parti conservateur et toujours le parti travailliste. Ça fait trop, ils sont trop importants, je pense, dans l'histoire politique de la Grande-Bretagne. Ils vont changer, ils vont s'adapter. Je ne vois pas trop un troisième parti qui avance. Et surtout avec le système électoral, le système majoritaire, ouais. C'est pas évident pour un nouveau
Donc,
parti.
Donc tout est possible. Soit tout rien ne bouge, ouais. Soit tout bouge.
Ouais.
Merci infiniment à nos deux invités, Emmanuel Avril avec nous ici et Nicolas Tartine du côté de l'université de Bath. Merci, un grand merci à des questions
merci.
Extrêmement difficiles, mais vous nous avez éclairés. On comprend qu'il y a J'espère. Beaucoup d'incertitudes et que tout est possible finalement. On continuera nos réflexions sur cette Grande-Bretagne post-Brexit dès demain. Mais pour l'heure, 11h53 minutes, l'heure pour nous de retrouver Brice Couturier.
Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
Bonjour Brice.
Bonjour Florian.
Alors vous nous parlez de la vague populiste, est-ce qu'elle va enfin s'échouer ou grossir encore Brice?
L'ombre du populisme s'étend lentement sur le monde. Tel est le constat que fait Andrés Velasco, l'éminent économiste chilien qui a été le ministre des Finances du gouvernement socialiste de Michel Bachelet. C'est un homme qui sait compter. Regardez, 330 millions de citoyens des États-Unis ont pour président Donald Trump. 170 millions de Brésiliens viennent de donner le pouvoir à Bolsonaro, un capitaine néo-fasciste. Ne pas oublier les Philippines de Rodrigo Duterte et leurs 100 millions d'habitants Et oui, je crois qu'on peut ajouter la Turquie d'Erdogan, 80 millions de personnes. On passera sur des pays de moindre importance démographique, mais selon Andrés Velasco, à l'heure qu'il est, environ 1 milliard d'êtres humains vivent dans des régimes qu'on peut légitimement qualifier de populistes. Alors, d'où souffle ce vent mauvais ? De manière générale, poursuit notre économiste chilien, on met en accusation l'économie et plus précisément la distribution des revenus. C'est vrai, le revenu médian stagne depuis une génération dans un certain nombre de pays et ce sont souvent ceux où la crise financière a aggravé des inégalités de revenus. Du coup, après avoir été relativement consensuel durant des décennies, la politique y est redevenue confrontation. Il appelle cette hypothèse celle de l'insécurité économique. Mais si le problème était une simple affaire de revenus des ménages, la réponse serait également simple, poursuit Velasco. Il suffirait de taxer davantage les riches et de redistribuer les revenus de manière plus agressive. Or, quand on le fait, ça ne marche pas. Les plus récentes enquêtes sur l'élection présidentielle américaine et sur le vote en faveur du Brexit démentent cette hypothèse de l'insécurité économique. Aux États-Unis, ce ne sont pas exactement les plus démunis économiquement qui ont préféré Trump, mais les plus démunis en diplôme. De même, si tout le populisme s'expliquait par la stagnation des revenus, pourquoi des pays en très forte croissance comme les Philippines ou la Turquie y auraient-ils succombé ? Alors, d'autres analystes expliquent le populisme par une autre hypothèse, celle du backlash culturel. Le vote populiste serait déterminé par les questions de race et d'immigration.
Mais alors Brice, comment expliquer que les populismes centre-européens, cette fois, se soient emparés de pays comme la Pologne et la Hongrie, qui non seulement performent plutôt bien sur le plan économique, mais n'ont pas d'immigrés ?
Exactement. Cet argument ne tient pas davantage. En outre, les taux de croissance annuels respectifs de ces deux pays sont de 3,3%, 2,1% depuis 2010, supérieurs donc à ceux de la France et même de l'Allemagne. Alors, on met en cause le chômage, mais ça ne marche pas non plus. La République tchèque jouit du taux de croissance le plus élevé d'Europe, 4,3%, et du fait de cette croissance, le chômage y a pratiquement disparu. Et pourtant, aux dernières élections, les populistes ont doublé leur score. 4 électeurs sur 10 ont fait ce choix, dans un pays où il n'y a pratiquement pas d'immigrés. Dans ces derniers pays, l'argument selon lequel le populisme est une réaction à la stagnation des revenus en une génération ne tient pas non plus la route. Depuis qu'ils sont sortis du communisme, ces pays se sont enrichis à un rythme qu'ils n'avaient jamais connu au cours de leur histoire. Alors vous me direz, certes il y a le Brésil qui constitue un cas différent. Il a subi, lui, une grave récession en 2015 et 2016 sous le mandat de Dilma Rousseff. Mais ce pays, sous la direction des gouvernements du PT, avait bénéficié de politiques fortement redistributrices. Obama, souvenez-vous, disait de Lula da Silva que c'était le politicien le plus populaire de la Terre. Aujourd'hui, il est en prison. Conclusion. Le populisme n'est pas le produit des difficultés financières des gens. Si le populisme, poursuit Andrés Velasco, reflétait une demande de redistribution accrue des revenus, eh ben, ce seraient les populistes de gauche qui l'emporteraient. Or, ce sont presque toujours les populistes de droite qui gagnent. Trump, Bolsonaro, Duterte, Orban, Salvini. Et les derniers populistes de gauche encore en place comme Nicolas Maduro, gouvernant des pays en faillite, sont très près de la sortie. C'est pourquoi imaginer combattre le populisme et l'illibéralisme par des largesses sociales est, dit-il, une illusion. C'est, écrit-il, l'ultime hubris technocratique, car cette générosité est perçue comme insultante. Non, la vraie cause du populisme, ce ne sont ni les inégalités de revenus, ni l'immigration, c'est l'arrogance des élites. Dans certains cas, la majorité déteste l'establishment politique parce qu'il est corrompu, c'est le cas du Brésil. Dans d'autres, parce qu'à force d'exercer le pouvoir trop longtemps, ses détenteurs le tiennent pour un droit acquis. Alors oui, conclut-il, on a besoin de changements sur le plan économique, mais surtout de changements politiques, sinon le nuage va continuer à gonfler.
Merci beaucoup Brice Couturier pour cette chronique qu'on peut retrouver sur le site de France Culture, www.franceculture.fr. On vous retrouve demain. Dans un très court instant, c'est Olivia Gesbert et La Grande Table.